Starlink.
Oui, c'est le truc de Elon Musk, c'est ça?
Ouais, c'est le truc des satellites.
Yes, à se connecter directement à Internet avec les satellites qu'il a lancés. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour 2 heures de Gai Savoir. Dans Zoom Zoom Zen, chaque après-midi de 16h à 18h, vous le savez, on décrypte notre époque à travers ces mots. Et aujourd'hui, un mot dont vous entendez beaucoup parler, le nom d'une entreprise qui fait, si j'ose dire, la pluie et le beau temps dans l'espace. Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk, si utile à la défense ukrainienne, décisif aussi en Iran, mais qui pose d'autres questions, comme par exemple, on va le voir, dans l'Arctique canadien, où on se retrouve avec un pays dépendant d'un opérateur privé. Starlink, un mot en forme de piège pour notre rédacteur en chef Cyril Lacaire, né sous Giscard, qui a cru qu'on allait zoomer sur Star Trek. La série, évidemment, de son adolescence. À aucun moment, l'absence totale de la série Star Trek dans l'actu ou des films Star Trek, dont le dernier remonte à 2009, n'a alerté Cyril sur le fait qu'il était tout de même étonnant, voire incongru, qu'on y consacre une émission entière en 2026. Il est donc arrivé ce matin à Radio France déguisé en Capitaine Kirk, le personnage auquel il s'est toujours le plus identifié, car, je le cite, normal, c'était le beau gosse de l'USS Enterprise. Le beau gosse
Kirk
et Capitaine Kirk, évidemment.
Mais qu'est-ce que vous racontez?
Évidemment, vous étiez fan.
Écoutez,
Kirk. J'ai dit Kirk, évidemment.
Kirk.
Mais pas du tout.
Vous comprenez, mais
vous comprenez
vous
avec le Kirk. Pas du tout. Mais c'est vous qui êtes fan en même temps, c'est pas moi. Moi, je suis jeune. Le beau gosse est capitaine du vaisseau, ce qui n'est pas anodin pour Cyril qui, depuis tout petit, adore commander. Évidemment, son accoutrement a surpris les spectateurs venus assister à l'Hyper Weekend Festival. Avec son legging paqué en relief, son juste au corps jaune moutarde et son pistolet laser à spirale, il a fait peur à certains, notamment aux enfants. Dont certains ont eu besoin d'une cellule psychologique. Surtout quand pour les rassurer, mais ça a eu l'effet inverse, le capitaine Kirk, la carrière, leur a lancé.
Et oui, les jeunes, on est là.
Bref, quand il est arrivé dans l'open space et qu'il a vu que je n'étais pas déguisé en Monsieur Spock, Cyril a levé les yeux vers le tableau de programmation et il a lu Starlink. Il s'est senti bête, on le comprend.
On serait pour ça.
Heureusement, n'était alors présent que Pierre Courade, qui, trouvant tout à fait normal de porter des slims en 2026, n'a pas remarqué que Cyril était déguisé. Tout était bien, qu'il finissait bien. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Je sais pas, mais dans la version française, on l'appelait pas le capitaine Kirk.
Mais non,
c'était Kirk. Kirk. Très bien, très bien.
Quelle journée en tout cas.
Toute une époque. Sacrée journée pour Cyril.
J'imagine Cyril en legging jaune là, ça.
Et une bise à William Shatner. Qui est toujours vivant.
Ouais. C'est l'acteur. Il est toujours vivant.
94 ans.
Ah oui, ouais. Il porte beau encore.
Je sais pas ça.
En tout cas, il est vivant. Écoutez.
J'arrive pas à le faire.
Oui,
c'est pas radiophonique.
C'est très bien. Quentin fait un joueur radiophonique qui est le signe Star Trek. Ouais, le
maintenant, il n'y arrive pas. Son petit doigt ne veut pas aller vers son.
Oui, bon, ouais, bref.
Il y a un problème, vous avez un problème de motricité.
Motricité oui,
fine, Manon. Nous y reviendrons sur une autre émission. Bonjour, Célestine Raboam.
Bonjour.
Merci beaucoup, bienvenue dans la bande. N'ayez pas peur. Célestine, vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique, l'IFG, et chercheuse au centre de recherche Géode, affilié à l'Université Paris 8. Vos recherches portent sur les enjeux soulevés par les dépendances technologiques dans l'Arctique canadien. Dépendance exacerbée par ce système d'Elon Musk, Starlink, un système qui permet pourtant, on l'a dit, aux Ukrainiens de communiquer sur le front ou aux Iraniens de contourner la censure en ce moment. Alors, qu'est-ce que Starlink? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un danger ou, au contraire, un outil de liberté? Comment éviter d'en être trop dépendant? C'est ce que vous allez nous expliquer durant cette heure ensemble. Juste le temps de vous présenter deux journalistes dont je suis totalement dépendant, puisqu'ils font deux choses dont je serais totalement incapable. Aller parler à des inconnus dans la rue et lire les bêtises des gens sur les réseaux sociaux. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Célestine, c'est en fin d'émission qu'elle nous racontera ce qui se passe de beau sur TikTok. Pour l'heure, Manon, vous avez une pièce jointe pour nous.
Un film, une plongée dans l'espace avec une astronaute qui est plutôt mal en point pendant 2 heures. Spoiler, le réalisateur a aussi réalisé mon Harry Potter préféré.
Ah là, c'est une énigme du père Fouras, là.
Bah oui, mais j'en fais souvent.
Face à vous, Célestine, quand vous parlez d'Elon Musk, faites très attention, vous parlez d'un confrère. Elon Musk et Quentin, lui, ne dégagent peut-être pas le même chiffre d'affaires annuel. Mais ils sont tous les deux des entrepreneurs. Elon avec ses satellites novateurs, ses voitures électriques et ses implants cérébraux. Quentin avec ses tasses connectées Lucy Galou, ses ménages en supermarché et ses déménagements au black. Mais au-delà de ces petites différences, ce sont tous les deux des bâtisseurs d'empire, n'est-ce pas Quentin?
À une différence, une légère, on n'a jamais prêté de salut nazi.
Ah, c'est
même,
vrai, c'est vrai.
Même à la suite d'une rare victoire au Zoom Zoom Test.
Ça
n'est jamais arrivé.
Mais ça, c'est tout à votre honneur,
merci.
Quentin. Quentin, en attendant de devenir, vous aussi, un jour, l'homme le plus riche de l'Orne, vous allez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, Starlink, ça évoque quoi?
C'est plutôt rentré dans le langage commun, dans les discussions. On a identifié dans la rue cette prouesse technologique, il faut quand même bien le dire, mais aussi ces dérives possibles. On en discute avant 16h30 dans un micro-trottoir complètement à la rue, bien sûr.
Depuis toujours, les génies tentent de relier les hommes entre eux. Bézu, avec la queue leu-leu. C'est la première idée que j'ai eue.
Il a réussi, premier
mot qui Bézu.
On la danse encore. Hein.
André-Marie Ampère avec le télégraphe électrique, d'autres avec des inventions encore plus saugrenues qui feront justement tout le sel de ce Zoom Zoom test spécial moyen de communication foireux.
Ah oui, parce que je ne voyais pas le rapport. Mais écoute,
il faut toujours attendre la fin de mes phrases, qui sont parfois effectivement assez longues. Juste avant 17h, je baisserai évidemment mon pantalon afin de recevoir...
Calmez-vous,
afin de recevoir ma fessée hebdomadaire du professeur Roland.
Vous croyez de Pierre Courade?
Non, ça c'est autre chose, c'est hors antenne. Après 17h, restez avec nous, vendredi oblige, on basculera en mode zoom zoom back. On filera en 1972 aujourd'hui pour se replonger dans les archives, dans la famille Duhamel, je demanderai non pas Benjamin, mais Alain. D'abord, zoom donc sur Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk, totalement géré par Elon Musk, il faut peut-être commencer par ça. Starlink, il n'y a pas d'autres actionnaires que Musk, Célestine?
Alors, donc Starlink, c'est effectivement une division de SpaceX, dont le PDG est Elon Musk. Et le principal atout, on va dire, de Starlink, c'est que la quasi-entièreté de la chaîne de valeur du réseau est contrôlée par SpaceX, qui construit les satellites, qui construit les antennes des utilisateurs, qui lance avec ses propres fusées, donc généralement Falcon 9, les satellites en orbite, qui gère toute la partie opérationnelle du réseau et qui, enfin, vend les forfaits Internet aux utilisateurs. Donc, il gère quasiment l'ensemble de ce réseau.
Donc, c'est bien Elon Musk qui dirige tout seul.
Globalement, oui.
Ça permet de résumer comme ça. Ok, c'était Starlink et pas Star Trek. My bad. Mais Manon, elle peut quand même faire sa pièce jointe sur Monsieur Spock, me suppliait-il ce matin. Non, Cyril, Manon ne consacrera pas sa pièce jointe à Monsieur Spock.
Désolé,
car c'est Starlink notre sujet. Mais Cyril, vous êtes réactif. Vous allez donc nous dire d'où ça sort, cette idée de diffuser Internet depuis des satellites.
Imaginez, nous sommes au milieu des années 2010 et la Silicon Valley panique. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Occident, tout le monde est déjà sur Facebook et la croissance stagne. Il faut aller chercher les prochains milliards d'utilisateurs ailleurs et pourquoi pas en Afrique. Problème, des millions de personnes du continent vivent dans des zones blanches, c'est-à-dire sans réseau. C'est là que Mark Zuckerberg a une idée. Puisqu'on ne peut pas tirer des câbles partout, on va faire descendre l'Internet du ciel. Ce projet s'appelle Aquila. À l'origine, Aquila, c'est une sorte de drone solaire gigantesque, de l'envergure d'un Boeing 737, mais qui pèse le poids d'une simple voiture. Le patron de Facebook veut faire voler cet Aquila en permanence au-dessus du continent africain pour diffuser le Wi-Fi. Du coup, Google s'y met avec le projet Loon. Ce sont des ballons stratosphériques gonflés à l'hélium et eux aussi, ils doivent diffuser du Wi-Fi. Après la ruée vers l'or, voici la ruée vers le ciel, quand les géants de la tech voulaient devenir les opérateurs télécoms du tiers-monde.
Mais ça n'a pas marché comme prévu.
Et non, Zuckerberg oublie son drone géant qui s'est crashé et s'achète un vrai satellite. 200 millions de dollars, il fait appel à SpaceX pour le mettre en orbite, mais la fusée explose et le satellite avec. Du coup, il l'a fait installer un câble sous-marin qui fait le tour du complet du continent africain. Voilà Zuck devenu agent des PTT. Alors, d'où ça sort la colonisation de l'espace pour propager le Wi-Fi? Eh bien, de cette Silicon Valley jamais assoiffée de nouveaux utilisateurs, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Enfin, je dis merci, mais vous avez quand même oublié un autre acteur de cette histoire, Jean-Louis Borloo, qui voulait électrifier l'Afrique, et sans électricité, pas de Wi-Fi, pas de communication. Pas vrai ce que je dis, Célestine?
Oui, tout à fait, effectivement, on a besoin d'électricité pour que l'Internet fonctionne et c'est la même chose pour les satellites. Si vous voulez brancher votre terminal et votre antenne, vous avez besoin d'électricité.
Au sol, effectivement.
Tout à fait.
Si on en revient donc à Starlink, concrètement, comment ça fonctionne?
Alors, donc Starlink, c'est un réseau d'Internet par satellite qui s'appuie sur ce qu'on appelle une constellation, donc un réseau de plusieurs milliers de satellites qui sont situés sur l'orbite terrestre basse. Donc l'orbite terrestre basse, c'est situé entre 200 environ et 2000 km d'altitude. Et les satellites Starlink, ils sont à environ 500 km d'altitude.
C'est pour ça qu'on les voit.
On peut les voir, oui, c'est
tout
ça.
Tout à fait. Ouais. Vous pouvez voir, il y a même des sites spécialisés qui vous permettent de vérifier à quel moment vous pouvez voir des trains de satellites Starlink passer au-dessus de chez vous.
Mais ça concerne quel endroit de la planète? Ça concerne toute la planète?
Couverture de Starlink est globale. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement...
Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Internet si on a Starlink.
Alors, théoriquement, Starlink, si Starlink active le service sur une zone géographique, vous pouvez avoir accès à Starlink. Bon, il y a quand même les États ont quand même leur mot à dire. Si un État n'autorise pas Starlink, théoriquement, le service, vous n'êtes pas censé légalement y avoir accès. Mais on l'a vu notamment en Iran, le service peut être activé dans une aire géographique. Et si vous arrivez à faire passer des terminaux utilisateurs dans ces pays-là, à ce moment-là, vous pouvez accéder au réseau.
Oui, c'est ça, parce que des terminaux, donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un boîtier pour s'y connecter.
Tout à fait. Oui, c'est une antenne, tout simplement, et comme un boîtier Wi-Fi. Et donc, c'est à partir de cette antenne. Alors, ça dépend où et ça dépend les... les pays, mais globalement, c'est autour de 400 dollars le kit entier.
Le kit, d'accord.
Tout
oui, c'est quand même pas donné.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Avec tous ces Spoutniks qui nous envoient dans le ciel, pas étonnant qu'il n'y ait plus de saison, disait...
Votre grand-mère ?
Ah non, Cyril Lacarrière, hier en conférence de rédaction. Zoom sur Starlink, aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, le système de satellite d'Elon Musk qui permet d'être connecté à Internet, même dans les endroits les plus reculés. On est toujours avec Célestine Rabouham, chercheuse au centre de recherche Géode. Célestine, alors, vous nous avez dit que l'orbite des satellites Starlink était à 550 km d'altitude. C'est très bas par rapport aux autres satellites de communication. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça apporte au système Starlink d'être si bas ?
Oui, alors... Traditionnellement, les premiers systèmes satellitaires qui ont été envoyés dans l'espace à partir des années 60, ils étaient envoyés sur ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Donc, c'est à environ 36 000 km d'altitude. Et c'est une orbite qui est très pratique pour les télécommunications.
Pourquoi ?
Puisque à cette altitude, le satellite, il va tourner à la même vitesse que la Terre. Il va couvrir toujours la même zone géographique. Et en plus de ça, il va avoir de très vastes faisceaux de couverture. Et donc, il va pouvoir couvrir de grands territoires. Et avec seulement 3 satellites géostationnaires, vous pouvez couvrir l'ensemble du globe. Sauf que si vous rapprochez les satellites de la Terre, alors vous gagnez en termes de latence, donc vous gagnez de la rapidité parce que les données vont mettre moins de temps à aller de vous, de l'utilisateur, jusqu'au satellite. En revanche, vos satellites, vous allez devoir les multiplier parce qu'ils vont tourner autour de la Terre beaucoup plus vite. Et donc, ils ne vont pas couvrir en permanence les mêmes zones. Et vous aurez besoin du coup d'avoir plus de satellites pour avoir une couverture globale.
On est assez critique d'Elon Musk dans cette émission sur pas mal de ses décisions et déclarations, mais là, sur le côté purement ingénieur, il faut lui reconnaître quand même un grand talent, parce que même le business model de Starlink n'était pas gagné d'avance, parce qu'il faut beaucoup plus de satellites.
Oui, mais alors du coup, le grand atout de Starlink, c'est qu'il s'appuie quand même sur sa société mère qui lance très régulièrement des satellites. Et d'ailleurs, on le voit, les concurrents directs de Starlink comme OneWeb ont fait appel à SpaceX pour lancer des satellites. C'est aussi le cas du projet canadien Lightspeed qui fait appel à SpaceX pour ses lancements. Et donc, on a cette capacité de lancement déjà qui est un énorme atout. Et derrière, comme je vous le disais, le modèle économique, effectivement, de vendre directement le service aux utilisateurs, lui permet d'avoir une flexibilité que n'ont pas les autres opérateurs de constellations.
Quentin. Il y en a combien de satellites Starlink actuellement dans l'espace, à peu près ?
Alors, les chiffres varient, mais les dernières informations communiquées par Starlink, c'est à peu près 8000 satellites actifs actuellement.
Et je disais que tous ces satellites, donc 8000 satellites Starlink, communiquent entre eux en permanence par faisceau laser, un peu comme dans Star Trek. Par conséquent, si certains appareils sont défaillants, d'autres prennent aussitôt le relais et ça assure la continuité du service. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Alors tout à fait, oui, c'est une des spécificités techniques de la constellation, c'est l'utilisation de ces liaisons optiques intersatellites qui permettent aux données de circuler entre les satellites de la constellation pour atteindre le plus rapidement possible les infrastructures et les utilisateurs. Donc déjà, c'est un atout au niveau de la capacité, de la rapidité de la connexion, mais c'est aussi un atout au niveau de la résilience de la constellation, puisque, comme vous le disiez, si un satellite tombe en panne ou plusieurs satellites, eh bien les autres prennent le relais. Donc on a un maillage de satellites qui permet une résilience très, très forte.
Mais là, on parle quand même du coup de satellites en orbite. Du coup, est-ce qu'on peut couper Starlink ? Est-ce qu'un gouvernement peut arriver et brouiller les communications de Starlink ?
Eh bien, justement, c'est ce qu'on a vu récemment avec le cas de l'Iran, où le gouvernement iranien a utilisé des techniques de brouillage des systèmes GPS, puisqu'en fait, vos terminaux utilisateurs et les satellites sont équipés de capteurs GPS. Et pour capter les signaux, vous avez besoin de ces systèmes GPS. Or, le gouvernement iranien a les capacités d'utiliser un brouillage sur ces capteurs GPS. Alors, ça a largement réduit les capacités de Starlink, mais ça ne l'a pas complètement éliminé. Ça n'a pas complètement permis d'éliminer le service en Iran. Juste par contre, ça ne permet plus à la constellation de fonctionner, au réseau de fonctionner normalement. Il y a eu une grosse perte de capacité. Mais Starlink, l'une de ses autres capacités, c'est qu'il met à jour continuellement et donc tous les jours ses systèmes et ses logiciels. Et donc, il essaye de remettre à jour pour éviter les brouillages.
Il brouille les brouilleurs, en fait, d'une certaine façon.
Il remet à jour pour éviter les brouillages.
Et comment ça se passe quand quelque chose tombe en panne ? Parce que est-ce que SpaceX envoie les satellites, d'accord, mais quand il y a un problème sur... Alors, on a compris que d'autres satellites pouvaient prendre le relais, mais s'il y a une dizaine de satellites qui sont en panne, et il y a un monsieur qui va monter, réparer tout ça à la main, comment ça se passe ?
Alors, bon, l'avantage, c'est que vous avez quand même 8000 satellites. Donc, de là à ce qu'il y ait suffisamment de satellites qui tombent en panne pour que le réseau soit complètement hors service, pour l'instant, c'est pas arrivé, mais ça pourrait potentiellement arriver si suffisamment de satellites sur une même zone géographique galactiques sont attaqués. Mais l'avantage de la constellation, c'est que, comme je vous le disais, les satellites, ils sont toujours en mouvement. Donc en fait, vous aurez toujours des satellites qui vont passer et qui théoriquement sont actifs, à moins qu'on ait un État qui soit capable de désactiver 8000 satellites. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, aucun État n'en a montré la capacité.
En 2023, quand il avait présenté son révolutionnaire mug Lucy Gallou au concours Lépine, il se présentait comme le Elon Musk français. Trois ans plus tard, il est toujours dans cette antichambre de la gloire entrepreneuriale qu'on appelle le micro-trottoir de Zoom Zoom Zen. Oui. C'est bien aussi, c'est bien, Quentin.
J'adore ça, j'adore ça.
Alors, Quentin Starling, j'imagine que le monde en a entendu parler.
Oui, évidemment, je suis sous la ligne 6 du métro parisien. Oui, c'est votre métro, Manon. Alors, oui, les gens vous reconnaissent dans ces rares. Alors, sous cette ligne du métro aérien, je croise la route de cet homme, casquette américaine, sac à dos. Il a la tête d'un mec sympa. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Karim.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Guide touristique.
C'est quoi votre endroit préféré à faire visiter ?
Je vais en Champagne, je vais en Bourgogne, je fais château de Versailles, vous voyez, donc je m'éclate partout, quoi. Moi, j'ai pas de préférence.
Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen, Starlink.
Oui, c'est le truc de Elon Musk. Yes.
Ah, est-ce que vous savez à quoi sert Starlink ?
Ouais. À se connecter directement à Internet avec les satellites qu'il a lancés.
Oui. Ben, je lui demande s'il sait comment ça fonctionne, à combien de kilomètres ces satellites volent au-dessus de nos têtes, par exemple.
À mon avis, ils ne sont pas très hauts parce que j'ai été guide aussi au Chili, dans la cordillère des Andes, et je les voyais le soir. Ah ben, c'est des petits points qui se suivent. Donc c'était toute une constellation comme ça, une ligne droite, quoi. Et tous les X mètres, eh ben, on voyait un petit point lumineux, mais on les voyait vachement bien. Donc je pense qu'ils sont assez bas.
Ils sont à 500 km d'altitude.
Ouais, donc c'est rien, 500 km, c'est rien.
On parle de cette invention, cette technologie qui peut permettre de lutter, peut-être même de sauver des vies, et on pense à l'Ukraine, notamment.
Ah non, mais ça peut être très bien aussi si on est perdu dans le désert et qu'on n'a pas de connexion Internet, si on peut se connecter à Starlink, et pour appeler un secours, effectivement, Starlink, ça a un côté positif. Mais après, c'est qu'est-ce que veut en faire le dirigeant ? Si on a un dirigeant qui est un peu taré, eh ben, son invention peut un peu partir en vrille.
On est plutôt savant mesuré ou savant fou ?
Ah, avec lui, je pense que c'est un savant fou, quoi. Après, il doit s'en mordre les doigts d'avoir fait de la politique parce que Tesla, ça a bien chuté. Donc, il faudrait qu'il s'occupe ou de son business ou qu'il aille faire de la politique.
C'est voilà. Vrai qu'on l'entend un peu moins. Ma prochaine rencontre est une rencontre d'outre-Manche.
Bonjour.
What's your name ?
Leslie. I'm from the UK, London.
Elle vit à Londres maintenant, pour la traduction.
Non, mais Leslie. Vous foutez de moi, vous avez entendu votre accent pourri.
Vous étiez en train de vous moquer de moi.
Oui, oui.
Oui, voilà, je le dis. Oui. Voilà, donc elle habite à Londres, cette capitale. Leslie découvre le mot sur lequel on a décidé de zoomer aujourd'hui.
Starlink.
Yes.
Starlink, en gros, c'est un modem. C'est un moyen de se connecter à Internet. Je pense que sur le principe, c'est une bonne idée. Si ce n'était pas aussi politique, ce serait vraiment une bonne idée. Vous savez, enfin non, vous ne pouvez pas savoir, mais je suis en route pour l'Ukraine. Et là-bas, ils ont de gros problèmes avec Starlink, parce que Musk menace régulièrement de leur couper l'accès pour des raisons politiques.
Je lui demande quel pouvoir ça donne à Elon Musk.
C'est un pouvoir immense, parce que ça veut dire que les soldats ukrainiens sur les lignes de front n'ont plus accès aux données dont ils ont besoin. Or, ces données sont indispensables pour faire voler et piloter les drones. Ils ne peuvent pas le faire avec un simple téléphone. La bande passante n'est pas suffisante. Ils doivent passer par Starlink. Et Starlink, lui, a la puissance et le débit nécessaires pour faire fonctionner toute une flotte de drones. Sans cette technologie précise, ils ne peuvent tout simplement pas opérer.
Ça donne à Musk un pouvoir de marionnettiste de guerre non négligeable et dans un moment stratégique, ça peut tout changer. Tiens, Adrien, qui prépare un doc sur les municipales parisiennes, réagit à son tour. Starlink, ça lui évoque quoi ?
Elon Musk, la fin du ciel étoilé.
La fin du ciel étoilé ?
Ouais, Elon Musk, il déploie cette espèce de constellation qui s'appelle Starlink. Et en fait, ça lasse des sortes de traînées lumineuses qui gênent le travail des astronomes. Je crois que l'Agence spatiale européenne a dit que ça risquait de nous couper un peu de l'espace à terme parce que ça freine les capacités d'observer l'espace depuis la Terre.
Ah, ça veut dire qu'il nous isole ?
Ouais, ça nous isole. Enfin, ça nous isole. En même temps, ça nous connecte, mais je sais pas si ça nous connecte à des choses très heureuses, quoi.
Ma dernière rencontre, c'est lui qui arrive, tout transpirant.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Louis Gabriel.
Louis Gabriel, on va vous décrire. Tenue de sport,
appelle-moi LG.
LG ?
Ouais.
Salut LG.
Ça va ?
ça va très bien. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de Starlink ?
Bah, c'est de la merde, hein. C'est pas terrible. Hein. Disons que j'ai un peu un problème avec Elon Musk, archi-capitaliste, super milliardaire, machin. Bon. Disons que je suis pas forcément gauchiste de base, mais il y a des gens comme ça qui ont tendance à me donner envie de le devenir un peu plus, tu vois.
C'est une bonne nouvelle.
Mais quand même, je lui dis, en claquant des doigts, il peut redonner Internet à des gens qu'on souhaiterait couper du monde.
de ce point de vue-là, c'est peut-être pas mal, mais après, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit une seule personne qui ait la main là-dessus. Bah, parce que s'il a envie de mettre et de démettre, il fait comme il veut, tu vois. Bon, par contre, moi, je vais devoir te laisser, là, parce que le temps que j'aille prendre ma douche et que j'aille manger, la cantine, ça ferme à 13h45.
Bah oui, on voit bien que ce pouvoir vous intrigue dans la rue, vous inquiète aussi. Que tout repose sur un seul homme, et pas n'importe lequel. Un homme qui a travaillé avec Donald Trump, qui a fait un salut comparable à ceux des nazis, qui a fait de son réseau social un repère sans modération et qui préfère réécrire l'histoire avec son IA. Ça pourrait nous empêcher de dormir, non? Mais bon, faudrait pas non plus qu'on soit en retard à la cantine.
Célestine Rabouam, c'est vrai ce que dit plusieurs de ses passants. Starlink peut être un levier de chantage pour Elon Musk. C'est-à-dire, il peut par exemple, effectivement, il a déjà menacé l'Ukraine de couper ses satellites plusieurs fois. C'est quand même, dans l'histoire de l'humanité, c'est un moment un peu particulier qu'on vit.
Oui, oui. Et je pense que d'ailleurs, la majorité des territoires et des gouvernements qui dépendent aujourd'hui beaucoup ou même majoritairement de ce réseau sont de plus en plus inquiets de cette vulnérabilité que ça représente. Parce qu'en fait, si un jour Elon Musk effectivement décide d'arrêter, par exemple, moi je travaille sur l'Arctique canadien, si Elon Musk décide un jour d'arrêter les services dans l'Arctique canadien, aujourd'hui c'est les services de santé, des services d'urgence, des services gouvernementaux qui s'appuient sur Starlink, donc qui sont indispensables et qui sont vitaux. Et donc ça inquiète, mais ça pourrait aussi être tout simplement le gouvernement américain qui réquisitionne toutes les capacités de la constellation pour ses propres besoins. Donc effectivement ça inquiète, et d'ailleurs on l'a bien vu, l'Ukraine ça a été vraiment un point de bascule où de nombreux gouvernements ont pris conscience de la capacité stratégique que représentait Starlink et ont commencé à justement vouloir développer leurs propres capacités.
Une chose a été évoquée par Adrien qui nous parle de pollution visuelle pour nos astronomes. Alors ça j'y avais pas pensé, ça peut avoir des conséquences, on en a déjà?
Alors oui, il y en a déjà et ça en aura de plus en plus. Après, je pense que là, c'est pas forcément que Starlink le problème, parce qu'on a de nombreux projets de constellations qui sont en projet en ce moment. On a la Chine qui a plusieurs projets de constellations qui sont actuellement en développement. La Russie avant la guerre aussi avait un projet de constellation. L'Union européenne a lancé les travaux de sa constellation Iris au carré en décembre 2024. Le Canada a prévu de lancer la sienne depuis quelques années déjà. Amazon également, enfin bref, on a énormément de projets de constellations qui arrivent, donc en fait ce projet va se multiplier.
On va rentrer dans les détails tout à l'heure sur ces projets différents.
Oui, donc en fait c'est un peu le futur, avant c'était les réseaux sociaux, maintenant on va se battre pour des projets en orbite.
Eh bien, moi je le compare plutôt au GPS, crois que c'est vraiment la capacité que représente, la capacité stratégique que représente cette technologie, fait qu'en fait aujourd'hui tous les gouvernements veulent avoir leur propre capacité, et justement comme vous le disiez, pour ne pas dépendre d'un acteur étranger et d'un acteur aussi instable d'ailleurs.
Mais on n'en a pas parlé, mais on l'utilise beaucoup en France?
Alors en France, ça c'est utilisé dans les zones blanches, mais c'est pas un des premiers États clients de Starlink. Par exemple, il me semble que c'est encore le cas aujourd'hui. Le Canada était le deuxième État qui utilisait, où le service était le plus utilisé. Et les derniers chiffres qu'on avait, c'était qu'en juillet 2025, Starlink était devenu le sixième fournisseur d'accès Internet en termes de chiffres
et
d'affaires.
Le premier utilisateur de Starlink, le pays, le premier consommateur, c'est
États-Unis.
Ah, c'est les États-Unis.
Les États-Unis, oui. Zoom zoom zen.
Mathieu Noël sur France Inter. Manon, la caution woke de notre équipe, ne l'avouera jamais, sa fanbase ne lui pardonnerait pas, mais elle adore Elon Musk. Convaincue que si elle a du réseau quand elle est en province, notamment à Poitiers l'autre jour, c'est seulement grâce à Starlink. Quentin, lui on l'a dit, est un fan absolu de Musk, il faut dire que c'est grâce à Starlink, il peut gérer sa holding, lui, Worldwide Entertainment, depuis le yacht de son oncle, au large de la Sardaigne, on l'embrasse.
Moi j'ai quitté X.
Oui, vous avez quitté X.
Moi aussi.
C'est un beau geste politique, moi aussi d'ailleurs. Moi aussi.
Manon, vous avez quitté X?
J'ai quitté X, j'ai un compte Carole Buisson, mais pour le travail.
Très bien.
Je parle des réseaux sociaux.
Très bien.
C'est important de le préciser. Cyril, lui, s'en fout, vu que son blog Suckin' Rock'n'Roll est hébergé sur Minitel. Mais bien avant qu'Elon nous bouche l'orbite avec ses 8000 satellites, d'autres génies, incompris eux, ont essayé de relier les hommes entre eux. Ce quiz leur est consacré, jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz qui débarre dans la France de 1788, un an donc avant ce que Cyril appelle le drame. Je vous propose de découvrir un ingénieur brillant nommé Claude Chapp, un nom à figurer dans la chronique PQR de Quentin. Claude,
c'est ce qu'il a inventé.
Alors attendez. Il va y avoir... Non. Je déroule petite histoire, évidemment, et ensuite vous nous dites.
S'appelle
Claude, qui va mettre au point ce qui est considéré comme le tout premier moyen de communication à l'échelle nationale, permettant de transmettre un message de Paris à Strasbourg, qui prenait à l'époque 4 jours à cheval.
Allez, sans proposition.
Et là, il va le mettre. Non. La question, c'est un QCM avec des questions précises, si vous voulez. Non. Donc, si vous voulez me dire une connerie et perdre votre point, dites-le.
Le télégraphe.
Pas du tout, il n'a pas inventé le télégraphe, donc comme ça, au moins, vous rentrez chez vous.
Franchement, moins deux points,
effectivement, c'est mérité.
Allez-y.
Donc, ceux qui prenaient à l'époque 4 jours à cheval, il va réaliser en seulement un jour grâce à un produit dopant pour les chevaux qui acheminent le courrier, en seulement 2 heures grâce à des bras articulés en bois et des longues vues, ou en seulement 30 minutes grâce à des mégaphones géants permettant de transmettre les voix de colline en colline par résonance acoustique.
C'est.
Je vais dire ah, mais oui, c'est. Je pense. Je dis ah.
Des nullos. Nous sommes confrontés à des nullos cet après-midi. Mais, excusez-moi, Chap, Célestine, de vous inclure dans le lot, mais là...
Chap a inventé le télégraphe, c'est sûr.
Écoutez, mais ce n'est pas dans mon quiz, en tout cas.
D'accord.
Donc, je ne peux pas vérifier en direct.
Prends moins deux pour une bonne information.
Fact-checking, je ne sais pas.
Mais ce n'était pas
la question.
Peut-être,
effectivement,
mais je Quentin, prendre moins
Quentin
deux.
Me bon, dit que vous avez raison sur Claude Chap. Vous avez raison, vous n'aurez pas moins
Pierre.
Deux.
Merci.
Claude Chap a effectivement inventé le télégraphe. Mais avant, il a inventé cette connerie qui consistait effectivement à un appareil qui était constitué de 2 grands bras et d'une barre fixée sur un mât de 4 mètres de haut. Le tout déformait des mouvements qu'on observait à la longue vue avant de les relayer au poste suivant. Malgré le succès du premier essai public, il n'y a pas eu de suite. On peut dire qu'une chape de plomb est tombée sur cette invention.
C'est drôle.
Et on avance dans le temps, direction 2013.
Oui,
merci Manon, un point bonus. En 2013, Manon s'éclatait sur Get Lucky, Quentin sur Blurred Line, enfin, surtout sur le clip de Blurred Line.
Ah oui, c'est vrai.
Quant à Pierre Courade, lui, il pleurait d'émotion en découvrant la reprise de Bésame Mucho par Vincent Niclot sur le plateau de Hier Encore, présenté par Virginie Guillaume.
Oh non.
Hop, 5 secondes, c'est suffisant. Mais voilà, en 2013, de l'autre côté de l'Atlantique, Google Lab lance le projet Loon, une technologie alternative visant à offrir une couverture Internet dans les zones blanches. En quoi consistait, d'après vous, cette technologie ? Il s'agissait de ballons stratosphériques gonflés à l'hélium ? De ballons stratosphériques gonflés au méthane ? Ou de lasers longue portée installés sur des pylônes en haute montagne ?
Ah, parce que Cyril, avant, Cyril l'a dit dans tout ça sort. Bon, non, je l'ai dit avant.
Je suis dessus, je crois pas.
Qui est en premier ? Je pense que c'est en même temps. Oui, une grosse dose de gai savoir pour Manon, pour qui les ballons en altitude, ça consistait surtout à s'envoyer des ballons de brouillis à la Folie Douce Courchevel. Eh bien non, Manon.
Je vais aller à la Folie Douce.
Les ballons d'altitude, vous devriez, ça vous plairait beaucoup. C'est autre chose, chaque ballon, selon Google, pouvait couvrir 5000 km² et délivrer de la bonne vieille 3G. Projet, hélas, abandonné en 2021 pour une sombre histoire de rentabilité.
Bon, ben, ça va pas être possible, à cause de... Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent.
Mais rembobinons un peu. En 1850, Jacques Toussaint Benoît, autre génie incompris, invente un nouveau système de communication censé bouleverser l'humanité. Un système de communication qui est complètement écolo. L'injustement méconnu télégraphe à huîtres, télégraphe à escargots ou radio à moules.
B.
Manon, vous venez de répondre que quelqu'un a inventé le télégraphe avec des escargots. Très bien. Quentin, vous voulez tenter une...
Bah A.
Avec des huîtres, ça vous paraît fonctionner mieux, forcément.
Enfin, la radio moule...
C'est une bonne réponse de Manon Marielle. Oui, alors si l'invention n'a finalement pas révolutionné le monde des communications, c'est qu'il fallait déjà adhérer au postulat de base de cet ingénieur, selon lequel les escargots, après s'être accouplés, restaient liés par un fluide télépathique, de telle sorte qu'en touchant un escargot à Paris, son partenaire à New York réagissait instantanément, permettant ainsi de transmettre des lettres. Croyez-le ou non, même si le projet était plein de bon sens, eh bien le malheureux Jaco ne trouva aucun investisseur pour financer cette belle idée. Le télégraphe à escargot restera donc lettre morte. Contrairement à un autre système de com aujourd'hui complètement dépassé, pour ne pas dire ringard as fuck, qui a pourtant existé jusqu'en 1984. Ce qui signifie, l'album Thriller étant sorti en 83, que Michael Jackson a peut-être envoyé un message par courrier à vapeur, métro-lettre ou par la poste pneumatique.
B. Métro-lettre.
Le métro-lettre. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus comment fonctionne le métro-lettre ?
On met les lettres dans le métro.
Dans le métro.
Vous savez que ça s'arrête à Paris, du coup.
Très bien. C'est effectivement la poste pneumatique. Bravo, Quentin. Le ministère des PTT interrompt le service le vendredi 30 mars 84 à 17h. Encore un coup des communistes, dira Cyril, qui se servait de cette ligne de tube pour envoyer des poèmes coquins à Martine Bitaillou du service presse du ministère de l'Intérieur. Enfin, on file aux États-Unis. 1963, pleine guerre froide, Washington veut trouver un système de communication militaire qui pourrait remplacer les câbles sous-marins. Ce sera le projet Westford qui consiste à créer une antenne géante ceinturant la Terre en lançant des centaines de millions d'aiguilles de cuivre en orbite, une sorte d'acupuncture de l'espace.
Acupuncture.
En injectant un nuage de poussière ionisée dans la thermosphère. Ou en dispersant des millions de micro-miroirs en polymère dans l'espace.
C'est
A.
C'est
A.
Les miroirs.
Ah, ça part pas, ça, les miroirs, dans l'espace, ça parle bien. Vous voulez de l'acupuncture dans l'espace?
Et comment vous dites?
Je dis ce que je veux, effectivement, et si vous voulez des points en moins... Vous
non, pas du tout, j'ai pas entendu.
L'acupuncture,
oui. Ah, oui, c'est
tout
ça.
À fait. Réponse A, c'est une bonne réponse de Quentin.
Ah.
Oui. Il s'agissait bien de 480 millions d'aiguilles de cuivre. L'objectif était de créer une ceinture orbitale capable de réfléchir les ondes radio, même si les câbles sous-marins venaient à être coupés par la vermine bolchevique. Problème, les aiguilles se sont dispersées, pas comme prévu, s'agglutinant en gros paquets, dont certains sont encore en orbite aujourd'hui. Défaite de la technologie et victoire de Quentin.
Quoi? Mais l'égalité.
C'est bien.
Je suis d'accord avec vous, c'est choquant.
Il y avait moins deux.
Oui, mais j'ai rajouté l'anecdote de Club Chap.
Et c'est vrai.
Sur le télégraphe.
C'est vrai, ça, ça l'a sauvé.
Pardon, mais...
Allez... Oui, j'ai eu un point bonus, pardon, vous l'avez oublié.
Attendez. Allez plus haut, chanter de manière prophétique Tina Arena en 1999. 25 ans plus tard, Elon Musk l'a fait. Bon, en vrai, techniquement, il est allé plus bas. On l'a vu, on en a parlé. On part à 550 km d'altitude aujourd'hui dans Zoom Zoom à la découverte de la constellation de satellites de communication Starlink d'Elon Musk. On est toujours avec Célestine Rabouam, doctorante à l'Institut français de géopolitique, l'IFG. Célestine, dans votre thèse, vous vous intéressez, vous en avez dit un mot tout à l'heure, à l'usage de Starlink dans les zones arctiques du Canada. Et vous avez mis le doigt sur une forme de dépendance. Pourquoi vous parlez de dépendance à Starlink dans cette région?
Alors, pourquoi on parle de dépendance? Eh bien, parce que aujourd'hui, de nombreux services ont basculé. Généralement, on a plusieurs systèmes de télécommunication pour assurer une redondance de nos réseaux et éviter que si l'un des systèmes tombe en panne, eh bien, on se retrouve sans rien. Et donc, dans l'Arctique canadien, la majorité des systèmes ont basculé leurs systèmes principaux sur Starlink et les systèmes redondants sont donc dans l'Arctique canadien, les satellites géostationnaires de l'entreprise de l'opérateur canadien Telesat. Donc, les systèmes principaux sont Starlink. Sauf qu'aujourd'hui, les services qui dépendent de Starlink travaillent maintenant avec beaucoup plus une bande passante beaucoup plus rapide avec beaucoup plus de capacité et donc demain si le réseau est coupé et bien les capacités vont complètement diminuer et donc ça laisse les acteurs dans des situations beaucoup plus compliquées.
Vous allez même plus loin, vous dénoncez une double dépendance technologique pour les utilisateurs et les services qui en dépendent dans l'Arctique mais aussi pour le gouvernement canadien. Comment un gouvernement d'un État indépendant peut être mis comme ça dans une position de dépendance à un service privé?
Alors, c'est plutôt les gouvernements territoriaux, en tout cas dans l'Arctique canadien, qui dépendent de ces services. Mais effectivement, par extension, le gouvernement fédéral, donc ces gouvernements territoriaux, en dépendent. Donc forcément, la dépendance se prolonge. Mais je parle surtout d'une double dépendance vis-à-vis des acteurs américains et des infrastructures américaines de l'Internet. Puisqu'en fait, Starlink gère, donc on l'a vu, toute la partie infrastructure du réseau. Donc gère les satellites, gère la construction des satellites, le lancement, etc. Mais il va aussi gérer tout ce qui va être routage des données. Donc ça veut dire par où vont passer vos données pour aller d'un point A à un point B sur le réseau Internet. Et en l'occurrence, Starlink installe des points de présence et va passer des accords avec d'autres acteurs de l'Internet, des fournisseurs d'accès Internet, etc. Et ce qu'on voit, en tout cas moi d'après mes recherches, ce qu'on voit c'est que ça renforce ce qu'on appelle le routage boomerang des données. Donc c'est-à-dire que les données vont avoir tendance à sortir du Canada et à passer par les États-Unis avant de revenir au Canada. Et évidemment, vous vous en doutez, à partir du moment où vos données elles sortent du territoire national, elles sont exposées à de la potentielle surveillance, puisque aux États-Unis, on a tout un arsenal de lois qui permettent aujourd'hui au gouvernement américain d'imposer à une entreprise de télécommunication de fournir les données de son entreprise.
Mais ils le savent, ça, les Canadiens?
Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, ce problème de routage boomerang existait avant Starlink. Moi, ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, c'est renforcé par l'arrivée de Starlink dans ces territoires.
Et là, vous travaillez sur une zone du monde en particulier, mais on peut imaginer que Starlink étant présent partout, il récolte des données partout. En fait, il nous apporte Internet, mais il nous prend des données qui vont, enfin, surtout aux États-Unis, je veux dire.
Alors, on peut imaginer que potentiellement, ces données, elles peuvent être soumises à de la surveillance. Ensuite, dans tous les cas, on peut aussi se dire que le gouvernement américain ne va pas forcément demander toutes les données. Et d'ailleurs, ils ne vont pas demander toutes les données de tous les utilisateurs. En revanche, là où c'est problématique, c'est quand des services gouvernementaux, comme c'est le cas par exemple dans l'Arctique canadien, des services de santé, on a aussi des mines aujourd'hui au Canada qui s'appuient entièrement sur Starlink pour leurs besoins de connectivité. Et donc, toutes les données peuvent potentiellement faire l'objet de surveillance.
Et ce qui est le problème au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, d'après ce que je comprends, Starlink est dans une position de un monopole de fait, en fait. Aujourd'hui, les autres sont trop en retard technologiquement, surtout qu'en plus, avec SpaceX, ils acheminent eux-mêmes les satellites. Comment on fait ? Il y a une entreprise, il y a quelqu'un qui peut rattraper ça ? Ou on va courir derrière Starlink ?
Oui, alors, juste pour un petit détail sur lequel je voulais revenir, moi, je pense qu'un élément qu'on voit beaucoup dans l'actualité, mais dont on parle pas, enfin, dont on l'analyse pas suffisamment, c'est le fait que Starlink est de plus en plus utilisé pour le rétablissement de communication en cas de crise, donc de crise politique, crise environnementale, crise militaire, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pendant le passage du cyclone Chido à Mayotte, on a tout de suite appelé Starlink. Et en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que de plus en plus, on a aussi tout un discours qui va être médiatiquement très repris, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a une crise environnementale, militaire, politique, vous allez avoir de nombreux titres de journaux qui vont dire Starlink sauve ou vient en aide, bref. Et donc on a tout un narratif autour du rôle de sauveur et donc une image héroïsée d'Elon Musk que lui-même réutilise derrière, notamment en Ukraine, quand il dit que son réseau est l'épine dorsale de l'armée ukrainienne et que s'il le souhaitait, il pouvait effectivement leur enlever ça. Et donc ça structure un peu le discours autour du fait que si Elon Musk décidait de ne pas activer le réseau, eh bien toutes ces personnes-là se retrouveraient sans rien. Et au niveau des alternatives, aujourd'hui, il y a une seule constellation de satellites qui est opérationnelle et qui est à peu près au même niveau que Starlink au niveau de ses capacités, c'est OneWeb. Sauf que OneWeb, donc, on a tendance à la présenter comme l'alternative française et européenne. On oublie un peu trop souvent qu'à la base, c'est quand même un projet qui a été développé par un entrepreneur américain, Greg Wyler. Le projet a été annoncé quelques mois avant celui de SpaceX, d'ailleurs, en 2015-2014. Et il est tombé en faillite en 2020, et c'est là que le gouvernement britannique, puis un conglomérat indien, a repris OneWeb. Et quelques années plus tard, Eutelsat est rentré dedans, et en septembre 2023, Eutelsat a fusionné avec OneWeb. Donc aujourd'hui, effectivement, on considère que c'est l'alternative à Starlink.
Mais on a quand même, je m'inclus dedans, parce que c'est européen, il y a combien de satellites ?
Alors, OneWeb, je crois qu'on est sur 600 et quelques satellites, donc on a beaucoup moins de
satellites. C'est 10 fois moins.
Et surtout, OneWeb n'intègre pas ce dont on parlait tout à l'heure, les liaisons optiques intersatellites.
Donc OneWeb, c'est ce système de communication entre satellites.
Et donc quand vous êtes sur une connexion OneWeb, finalement vos données, elles vont faire à peu près la même chose que sur un système géostationnaire. Elles vont partir de votre antenne, aller jusqu'au satellite, et le satellite va devoir attendre de trouver une station au sol avant que vos données redescendent. Donc ça prend un peu plus de temps, quoi. Et ça demande à OneWeb d'avoir beaucoup plus d'infrastructures au sol.
Vous écoutez France Inter sur la bande FM, sur Internet, et même peut-être, si vous nous écoutez en chassant le phoque sur la banquise arctique, grâce à Starlink. Et c'est l'heure, parce qu'on ne sait pas vraiment quelle heure il est, mais on le devine, c'est la pièce jointe de Manon Mariani.
Un film aujourd'hui.
Explorer est touché. Explorer, vous recevez. Explorer, à vous. Explorer.
En 2013, Gravity sort au cinéma avec Sandra Bullock et George Clooney, réalisé par Alfonso Cuarón. Le film est immédiatement décrit comme une prouesse technique, mais aussi comme une expérience de cinéma pensée pour la salle, à rebours des blockbusters classiques. Et c'est vrai que plus qu'un film, Gravity est surtout une expérience sensorielle assez particulière. Le point de départ tient en quelques lignes. Deux astronautes effectuent une mission de maintenance en orbite terrestre. Un satellite explose, les débris arrivent à très grande vitesse, la station est détruite. L'une des astronautes se retrouve toute seule projetée dans le vide spatial avec un stock d'oxygène limité. On se retrouve dans l'espace avec Sandra Bullock à travers son personnage. On suffoque avec elle, on tourne avec elle, on a peur avec elle. Pour arriver à ce résultat, Alfonso Cuarón a fait un travail assez époustouflant. Il arrive à filmer l'espace comme un milieu hostile où la caméra flotte avec des plans séquences parfois très très longs. Le spectateur perd le sens du haut et du bas comme les personnages. Et puis il y a eu un travail énorme sur le son. Dans l'espace, il n'y a pas de bruit et le film respecte cette dimension. C'est quasiment inédit au cinéma. Les chocs sont le plus souvent silencieux. On entend surtout la respiration, le souffle, les battements du cœur à l'intérieur du scaphandre. Le son enferme le spectateur dans la même bulle que l'astronaute. Les technologies 3D et IMAX accentuent encore plus cette immersion. À l'époque, certaines critiques parlent d'un film qui se vit plus qu'il ne se regarde. Bon, personnellement, moi j'avais quand même kiffé cette dimension-là. Résultat, Gravity est un succès mondial avec plus de $700 millions de recettes. La performance de son Sandra Bullock est également très commentée, seule à l'écran pendant une grande partie du film. Elle porte le récit presque à elle seule, hein. Son jeu est aussi salué pour sa sobriété et son intensité. Elle reçoit plusieurs nominations majeures, dont celle de l'Oscar de la meilleure actrice. Elle ne l'obtiendra pas, dommage pour elle, mais le film repartira quand même avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur.
Merci Manon, vous l'aviez vu en 4DX, là où ça bouge ?
Oui, je l'avais vu comme ça, c'était assez perturbant.
Ah, moi aussi, j'avais trouvé merveilleux. J'avais vomi à la fin, mais j'avais trouvé merveilleux.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il est capable d'énoncer à l'antenne les pires contre-vérités, notamment concernant l'enneigement des massifs pyrénéens, et ajouter la vulgarité à la désinformation comme hier. Selon la météo des neiges, toujours rien à la Mongie.
C'est pas vrai, il y a au moins un mètre.
Vous faites unité de mesure, j'imagine.
Comme pas avec les... ma taille. Pas avec ma taille. Pourquoi faire confiance à quelqu'un d'aussi peu fiable ? Bah parce qu'au fond, on l'aime bien. Pierre Courade, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur Starlink, le fameux réseau de satellites d'Elon Musk en une minute chrono.
Merci Mathieu. Aujourd'hui, Starlink, donc le système de satellites déployé par Elon Musk. On en a parlé avec Célestine Rabouham, chercheuse, doctorante à l'Institut français de géopolitique. Elle nous a expliqué que Starlink avait pour première particularité que tout était géré de A à Z par l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX. C'est elle qui construit les satellites, lance les fusées pour les mettre en orbite, vend les antennes, les forfaits et dirige l'ensemble de l'opérationnel. Les satellites de Starlink permettent de recevoir Internet théoriquement partout sur Terre. Ils sont très bas, 550 km d'altitude, ce qui permet de gagner en rapidité. Mais en contrepartie, il en faut beaucoup plus que les satellites de communication traditionnels. Il y en a près de 10 000 dans l'espace. On peut les voir se déplacer en grappe la nuit dans le ciel, une constellation qui permet à des pays en guerre comme l'Ukraine de continuer à communiquer ou aux Iraniens de contourner la censure. C'est difficile pour un État de couper totalement Starlink à partir du moment où un utilisateur possède un kit de connexion, prix d'achat 400$. Starlink, c'est donc presque aussi ingénieux que le système de Chape, qui est bel et bien un télégraphe. Bravo Quentin. Néanmoins, ce système flexible et performant s'impose tellement dans le monde qu'il peut mettre des territoires sous dépendance. C'est le cas de l'Arctique canadien, zone stratégique, où Starlink gagne le monopole des communications, notamment dans le secteur industriel, gouvernemental et médical. Problème, les données sortent du territoire canadien pour passer par les États-Unis, ce qui pose un vrai problème de souveraineté.
Merci. Et on retient de tout ça que Starlink est comme vous, Pierre. C'est difficile de le couper. Et ça y est, l'heure est venue. L'heure sombre de Zoom Zoom Zen, quand s'avance vers le micro le sinistre François Rollin, qui a toujours quelque chose à dire, mais jamais rien de positif. Bonjour François.
Bonjour mon petit Mathieu. Écoutez, il y a un mieux.
Ah.
Un léger mieux. Ne vous emballez pas, l'ensemble de l'émission reste une daube navrante qui n'est du reste plus écoutée que par un peu moins de 80 personnes à travers l'Hexagone. Oui, mais voilà, quand ça ne va pas, il faut le dire, et quand ça va mieux, il faut le dire aussi, et je le dis. Lundi, vous avez, Mathieu, fait une promesse et vous l'avez tenue. Vous avez dit, on se retrouve juste après les informations de 17h. Et promesse tenue en effet, après les informations, vous avez repris l'antenne, bravo. Mardi, vous avez fait une autre promesse et de nouveau, vous l'avez tenue. Vous avez dit à Gaspard Koenig, je rappelle le titre de votre livre, et dans la foulée, vous avez rappelé le titre de son livre, à quoi ? C'était vraiment inattendu et touchant. Et puis aujourd'hui même, un nouvel exploit, quelqu'un vous a demandé la parole et vous avez dit « Oui, Quentin ». Et c'est en effet Quentin qui vous avait demandé la parole. Vous avez évité votre habituel « Oui, ma poule », qui a dissuadé tant de braves gens d'écouter Zoom Zoom Zen. Et surtout, vous n'avez pas, comme c'est généralement le cas, confondu Quentin avec Manon, ce qui est vexant pour les deux. On est donc sur un chemin de rédemption et c'est le moment ou jamais de vous donner de la matière pour les temps à venir. De la matière sérieuse, pas de la niaiserie en conserve comme vous l'affectionnez usuellement. Il y a un problème de société auquel il est essentiel de donner une réponse formelle. Vous êtes assis dans le train, TER ou TGV, qu'importe, à 4 rangées par exemple de la porte donnant sur la plateforme, donnant sur la porte de sortie, donnant sur le quai, donnant sur la gare, donnant sur la ville. Lorsque retentit dans le haut-parleur l'annonce de l'arrivée en gare, à 13 minutes environ de l'arrivée en question. 13 longues minutes qui ne se justifient que parce que le contrôleur veut prendre le temps de ranger ses petites affaires. Les voyageurs commencent à s'agglutiner dans l'allée centrale de la voiture. Une fois le train arrêté, au moment où commence la sortie effective, devez-vous vous laisser couper la route par les agglutinés et rester bloqué sur votre siège jusqu'à la descente du dernier d'entre eux, ou bien avez-vous le droit de vous lever et de couper la route à la bande d'agglutinés ? Le même problème se pose dans l'avion, mais dans l'avion, la discipline est toujours respectée pendant les 17 minutes qui s'écoulent entre l'immobilisation de l'appareil et l'ouverture de la porte avant. Les voyageurs sortent dans l'ordre croissant des rangées et ne se laissent jamais couper la route par des gens assis derrière eux. Dans le train, au contraire, j'ai vu plus d'un olibrius forcer le passage devant des personnes qui, contrairement à lui, n'avaient pas souhaité se lever précipitamment 13 minutes avant l'arrivée. Mon avis personnel est que les agglutinés doivent céder le passage. Mais il faut maintenant que ce devoir soit inscrit noir sur blanc dans un règlement, règlement que le contrôleur devra lire dans son haut-parleur pendant le voyage. Il devra le lire dans un petit manuel qu'il prendra le temps de ranger pendant les 15 minutes séparant désormais son annonce d'arrivée de l'arrivée elle-même. L'analyse des tenants et aboutissants de cette nécessaire réglementation devrait normalement, pour un examen consciencieux, transparent et républicain, occuper les 5 émissions de la semaine prochaine. Ou de la semaine d'après, si vous êtes aussi poussif qu'on le dit. Allez, salut.
Salut mon cher François Rollin, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Célestine Rabouham de nous avoir expliqué le fonctionnement et les enjeux de Starlink. Merci d'avoir été sur Inter cet après-midi. Zoom Zoom Zen.